courbons-nous dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons élever nos cœurs vers toi qui es dans les cieux. Père, Fils et Saint-Esprit, nous nous courbons devant toi et nous t'adorons. Seigneur, tu nous as fait la grâce de te faire connaître à nous. Nous étions embourbés dans les ténèbres de notre ignorance et de nos erreurs. Et tu t'es révélé à nous. Tu l'as fait par le moyen de celui qui s'est incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as fait par ta parole qui s'est manifestée d'une manière humaine sur cette terre. Tu l'as fait, Seigneur, par ton Saint-Esprit qui nous a ouvert l'intelligence et communiqué ce que Jésus-Christ a accompli. Et Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné la foi qui nous permet d'accéder à ces choses. Seigneur notre Dieu, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons en ce printemps magnifique où toute ta création parle de toi. Nous nous humilions parce que si souvent nous ne le voyons pas. Nous nous humilions aussi parce que notre civilisation l'a oublié complètement. Seigneur, tes œuvres parlent de toi de la manière la plus claire et la plus merveilleuse, et nous t'adorons en tant que Créateur. Et Seigneur, ton œuvre en Jésus-Christ, lui qui est Dieu de Dieu, éternellement Dieu, égal au Père et au Saint-Esprit. Ô Seigneur, ce Fils est venu sur la terre. Il a été engendré dans le sein de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, tout en étant Dieu, tout en restant Dieu. Deux natures, une seule personne. Et Seigneur, nous voulons t'adorer pour ce Fils qui est venu pour restaurer toutes choses, en commençant par tes élus, mais à travers eux la création tout entière. Et nous voulons t'adorer et te louer pour Jésus-Christ. Et en ce dimanche des rameaux, nous voulons te bénir et t'adorer pour son obéissance, pour sa fidélité, pour son courage, pour sa persévérance, pour l'esprit de force que tu lui as donné, qui lui a permis de confronter toutes les puissances des ténèbres, et en particulier les puissances des ténèbres religieuses d'Israël, qui étaient déterminées à le détruire. Et Seigneur, il est venu sur la terre, il est venu dans ce premier dimanche des rameaux, il est venu dans la ville, dans sa ville, entouré des acclamations de son peuple. Mais il y est venu pour mourir, pour être jugé, pour être condamné de manière inique, pour être cloué sur le bois, tout ça afin que notre salut s'accomplisse. Et nous voulons te remercier aussi parce qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine et nous célébrons ta résurrection. Et maintenant tu es assis à la droite du Père et tu gouvernes toutes choses. Et ton corps est uni à toi, nous sommes ton corps et nous sommes réjouis par toi et nous voulons te glorifier, t'honorer et te demander que tu continues à bénir ce culte, de bénir tout ce qui s'y passera, de bénir la prédication de ta parole, la lecture de ta parole, les cantiques, les prières et Seigneur de bénir tout particulièrement la Sainte Cène. Et nous te remercions pour toutes ces choses et nous te louons et nous t'adorons pour cet immense privilège que tu nous donnes de t'appartenir, de te louer, de te glorifier et de t'adorer. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Amen. Je vous invite à la lecture du texte de la prédication de ce matin. Dans la suite donc de ces prédications sur le roi David, nous allons lire au deuxième livre de Samuel, le chapitre 15 dans son entier. Ce chapitre 15 fait bien sûr suite au chapitre 14, au cours duquel Absalom, après avoir été banni, loin de David, est revenu en grâce par l'entremise de Joab. Après cela, donc chapitre 15, verset 1, « Après cela, Absalom se procura un char, des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se levait de bon matin et se tenait au bord du chemin qui menait à la porte. Et chaque fois qu'un homme avait un procès et se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Absalom l'appelait et disait « De quelle ville es-tu ? » Lorsqu'il avait répondu « Ton serviteur est de telle tribu d'Israël », Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tout homme qui aurait un procès ou un droit à défendre viendrait à moi et je lui ferai justice. » Et quand un homme s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour obtenir un jugement. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Au bout de 40 ans, Absalom dit au roi, « Permets que j'aille à Hébron pour accomplir le vœu que j'ai fait à l'Éternel, car ton serviteur a fait un vœu pendant que j'habitais à Geshur en Syrie. J'ai dit, « Si l'Éternel me ramène à Jérusalem, je rendrai un culte à l'Éternel. » Le roi lui dit, « Va en paix. » Alors Absalom se leva et partit pour Hébron. Absalom envoya des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire, « Quand vous entendrez le son du cor, vous direz, « Absalom règne à Hébron !» 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités s'en allèrent avec Absalom. Ils s'en allèrent en toute simplicité, sans rien connaître de l'affaire. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Guilo, Ahitophel, le Guilonite, conseiller de David. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Arriva enfin celui qui fit rapport à David et qui dit « Les hommes d'Israël se sont ralliés de cœur à Absalom ». Alors David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura pas moyen pour nous d'échapper à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il se hâtera bien lui-même de nous atteindre et d'attirer un malheur sur nous en frappant la ville du tranchant de l'épée. » Les serviteurs du roi lui dirent « Pour tout ce qu'aura décidé mon seigneur le roi, nous sommes tes serviteurs. » Le roi sortit et toute sa maisonnée le suivait. Il laissa 10 concubines pour garder le palais. Le roi sortit et tout le peuple le suivait. Ils s'arrêtèrent à la dernière maison. Tous ses serviteurs, tous les Kérétiens et tous les Pélétiens passèrent à ses côtés et tous les Gathiens, au nombre de 600 hommes venus de Gath à sa suite, passèrent devant le roi. Le roi dit à Ittai de Gath, « Pourquoi viendrais-tu aussi avec nous ? Retourne et reste avec le roi, car tu es étranger et même tu as été déporté de ton pays. Tu es arrivé d'hier et aujourd'hui je te ferai errer en allant avec nous, quand je ne sais moi-même où je vais. Retourne et ramène tes frères avec toi, que l'Éternel te témoigne bienveillance et fidélité. » Ittai répondit au roi en ces mots, « L'Éternel est vivant, et mon seigneur le roi est vivant. À l'endroit où sera mon seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » David dit alors à Ittai, « Va, passe !» Et Ittai de Gath passa avec tous ses hommes et tous les enfants qui étaient avec lui. Tout le pays pleurait à grand bruit au passage de tout le peuple. Le roi franchit la vallée du Cédron et tout le peuple passa vis-à-vis du chemin du désert. Tsadok était aussi là et avec lui tous les Lévites portant l'arche de l'Alliance de Dieu. Ils posèrent l'arche de Dieu et Abiathar montait pendant que tout le peuple achevait de sortir de la ville. Le roi dit à Tsadok, rapporte l'arche de Dieu dans la ville. Si j'obtiens la faveur de l'Éternel, il me ramènera et il me fera voir l'arche et sa demeure. Mais s'il dit, je ne t'agrée plus, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Le roi dit encore au sacrificateur Tsadok, vois-tu, retourne en paix dans la ville, ainsi que ton fils, Ahimaaz et Jonathan, fils d'Abiathar, vos deux fils avec vous. Voyez, je m'attarderai dans les plaines du désert, jusqu'à ce qu'il m'arrive un mot de rapport de votre part. Ainsi, Tsadok et Abiathar rapportèrent l'arche de Dieu à Jérusalem et y restèrent. David prenait la montée des oliviers, il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pied, et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint rapporter à David, « Ahitophel est avec Absalom parmi les conjurés, et David dit, « Ô Éternel, fais que le conseil d'Ahitophel soit dénué de sens. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici qu'arriva à sa rencontre Hushaï, l'Archien, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu passes avec moi, tu me seras à charge. » Au contraire, si tu retournes à la ville et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. Tu feras échec en ma faveur, au conseil d'Aïtophel. Les sacrificateurs, Tsadok et Abiathar, sont là avec toi. Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le rapporteras aux sacrificateurs Tsadok et Abiathar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs deux fils, Ahimaaz pour Tsadok et Jonathan pour Abiathar, c'est par leur intermédiaire que vous m'enverrez dire tout ce que vous aurez appris. » Hushaï, ami de David, retourna donc à la ville et Absalom entra dans Jérusalem. Voici donc la lecture de la parole de Dieu, la lecture du texte de la prédication de ce matin, que notre Dieu bénisse sa parole. Chers amis, vous vous souvenez certainement que nous avons découvert la semaine passée deux conséquences terribles du péché de David avec Bathsheba, ainsi que de son inconséquence paternelle. Il s'agissait tout d'abord du viol de sa fille Tamar par son demi-frère Amnon, et finalement du meurtre d'Amnon par Absalom, le frère de Tamar. Et ce matin, nous allons continuer de voir les conséquences, donc des inconséquences de David, selon cette malédiction de l'Éternel que je vous rappelle au chapitre 12. Maintenant, c'est Nathan qui parlait de la part de Dieu à David, « Maintenant l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. » Et donc, c'est ainsi que nous allons découvrir ce matin, ou que nous allons nous retrouver au sein d'un véritable coup d'État. En effet, Absalom, qui briguait de longue date le trône de David, ce qui est d'ailleurs, et c'est une réponse à une discussion que j'ai eue à la fin de notre culte dimanche dernier, ce qui était certainement une des raisons du meurtre d'Amnon. Il voulait venger Tamar, certainement, mais il voulait avant tout prendre la place de David. Et donc, David, qui briguait de longue date le trône d'Israël, va tout faire dans ce texte, eh bien, pour séduire les Israélites en vue donc de prendre le trône de son père. Et permettez-moi d'ores et déjà cette première remarque. Il sera intéressant ce matin de considérer en termes de séduction, dans cette période post-électorale, que ce soit du côté français ou du côté américain, que les candidats d'aujourd'hui et tous leurs états-majors n'ont absolument rien inventé en termes de manipulation, de désinformation, de séduction, de promesses sans lendemain et de mensonges. Absolument rien. Je ne sais pas s'ils ont considéré le chapitre 15 de 2 Samuel, s'ils ne l'ont pas fait, eh bien, ils pouvaient le faire, ça leur aurait évité peut-être beaucoup de travail. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils se retrouvent pour beaucoup d'entre eux avec Absalom. Ce que je vous propose de voir ce matin, eh bien, c'est tout d'abord Absalom en tant que séducteur. Nous verrons ensuite comment le peuple d'Israël se laisse facilement entraîner ou envoûter par Absalom. Et nous découvrirons ensuite la fuite de David et surtout le soutien qu'il reçoit de la part de quelques-uns. Le titre de cette prédication de ce matin est celui-ci, l'usurpateur. J'aurai donc 3 points. Le premier, le séducteur. Le deuxième, un peuple envoûté ou séduit. Et le troisième, un reste fidèle. Mais tout d'abord, et les 12 premiers versets, c'est le point peut-être le plus important en taille, en tout cas, le séducteur, ce sont les 12 premiers versets. Alors, ce qui est intéressant, bien entendu, vous l'avez compris, je le pense, c'est d'observer dans ces 12 versets, comment Absalom s'y prend pour agréger autour de lui une grande partie, sinon même la majorité de la population israélite, afin de prendre le pouvoir. Et on peut résumer la stratégie de séduction de David ainsi que sa légitimation, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Il a besoin d'être légitimé, donc, aux yeux de tout Israël pour prendre le pouvoir. On peut le résumer, cette stratégie de séduction, de légitimation, de la façon suivante. Absalom va séduire ou séduit, Absalom quadrille et Absalom s'entoure. Il séduit tout d'abord. Absalom sait très bien, avant de prendre le pouvoir ou de tenter de prendre le pouvoir, qu'il doit impérativement gagner le cœur d'Israël. Sa légitimation, je le répète, comme futur roi, passe nécessairement par une séduction de ce peuple d'Israël dont il brigue le pouvoir. Il doit être aimé, il doit être désiré par ce peuple. Et nous remarquons ainsi, au verset 7, qu'ayant un handicap certain en termes de popularité, puisque le peuple aime le roi David, eh bien, Absalom va commencer ce travail de séduction très tôt, certainement 4 ans avant son putsch, et non pas 40 ans, il s'agirait, d'après la plupart des commentateurs, d'une erreur de copiste. 4 ans avant, donc, ce coup d'État. Précisons qu'il va prendre tout le temps nécessaire, à propos de ces 4 ans, il va prendre tout le temps nécessaire pour petit à petit, doucement, séduire ce peuple. Pourquoi doucement, petit à petit, durant 4 ans? Pour que son projet ne soit pas éventé, pour que l'on ne se rende pas compte, et David en particulier, qu'Absalom désire faire un putsch et prendre le trône de son père. Alors, comment est-ce qu'Absalom va s'y prendre pour séduire ce peuple? Alors, nous allons voir certains éléments qui nous sont donnés sur quelques versets, les versets 2 à 5 en particulier. Tout d'abord, la présence, verset 2. Absalom sait que s'il veut être reconnu du peuple, il lui est nécessaire d'occuper le terrain. Raison pour laquelle, eh bien, nous découvrons dans ce verset 2 qu'il se lève journellement tôt pendant des années pour faire acte de présence auprès du peuple. Et il va démontrer ainsi à ce peuple qu'il n'épargne pas son temps et son sommeil pour prendre soin de lui. Non seulement en présence, mais aussi en placement. La présence est une chose, mais encore faut-il être au bon endroit, au bon moment. Et dans ce sens, le roi tenant conseil journellement à l'entrée de la ville, à la porte de la ville, pour rendre justice à Jérusalem et peut-être pour tout le peuple d'Israël, eh bien, Absalom va se mettre sur le chemin, sur la route, et c'est ainsi que tous ceux qui viendront auprès du roi pour faire appel à sa justice passeront nécessairement devant Absalom, et Absalom s'adressera à eux, leur demandera pour quelle raison est-ce qu'ils viennent voir le roi et lui demander justice. Présence, emplacement, allure. Enfin, c'est le seul terme que j'ai trouvé, j'en avais trouvé d'autres, mais c'est celui que j'ai retenu. Vous le savez, en règle générale, le peuple est séduit par la beauté. On aime les gens beaux, les gens pleins de prestance. Rappelez-vous d'ailleurs le cas de Saül que nous avons considéré ensemble au tout début de cette série de prédications. Pour le peuple, la beauté, la prestance, à tort parfois, si ce n'est même souvent, est une garantie d'intelligence, de puissance et de capacité. Et il s'avère justement qu'Absalom est particulièrement beau, comme l'était Tamar. Et Absalom va jouer cette carte. Et non seulement il va jouer cette carte de sa beauté, mais il va encore ajouter par là-dessus, pour se donner plus de crédibilité, une garde de 50 hommes qui vont le précéder lorsqu'il se déplacera à Jérusalem et dans tout Israël, et puis un char, comme un roi. Présence, temps, allure, prestance, mais aussi flatterie, toujours au verset 2. Lorsqu'un citoyen vient donc à Jérusalem, ou un citoyen de Jérusalem vient pour faire appel au roi, il passe devant Absalom, Absalom l'arrête, lui demande qui il est, lui demande d'où il vient, et dès lors que cet homme, cette femme, lui donne son identité et son lieu d'origine, alors Absalom ne tarit pas d'éloges sur lui, sur sa famille, sur sa région. Un peu comme si on vous disait « Ah, tu es Neuchâtelois, mais c'est extraordinaire, c'est le meilleur canton. » Ou les Vaudois, ou que sais-je. Et c'est ainsi que, très simplement, Absalom s'attire la sympathie des petits, des Israélites de province peut-être. Écoute attentive et empathie, au verset 3. Voilà donc une personne, un Israélite qui passe, qui veut voir le roi, qui veut demander au roi de lui faire justice. Il est contacté par Absalom. Absalom lui demande, mais pour quelle raison est-ce qu'il vient devant le roi? Et voyant qu'il est ainsi considéré, qu'il est ainsi l'objet de l'intérêt du prince Absalom, eh bien cet homme, cette femme s'enhardit et présente sa cause. Et Absalom écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et cette personne a donc le sentiment d'être importante, d'être enfin comprise. Et cela conforte même donc cette personne-là dans la justice justement de sa cause qu'elle va présenter devant le roi. Toujours au verset 3, Absalom, après avoir écouté, eh bien, vous le remarquez, prend à chaque fois la défense de la personne à laquelle il s'adresse, avec laquelle il discute, et nous le voyons ainsi s'ériger en un juge compréhensif, bienveillant, prenant la défense du petit peuple, quelle que soit la raison, bonne ou mauvaise. Et vient enfin la calomnie, toujours dans ce troisième verset. Pour gagner les faveurs des personnes qu'il a ainsi abordées, qu'il a ainsi écoutées, qu'il a ainsi justifiées, eh bien, Absalom feint une fausse colère. Il s'afflige en accusant le roi et sa cour, peut-être pas de façon très grossière ou trop lourde, mais soit de ne pas avoir l'intention, soit de ne pas avoir ou de ne plus avoir la capacité de prendre la défense du peuple. David a approximativement 70 ans à ce moment-là. C'est un homme âgé qui a combattu durant des années. Et Absalom suggère certainement que donc le roi n'est plus capable de traiter le droit, de faire justice, comme il le faisait autrefois ou comme il devrait le faire. Et il soupire alors de ne pas avoir l'autorité, le pouvoir voulu pour résoudre tant d'injustices. Mais qui m'établira juge dans le pays ? Quand est-ce que je pourrai enfin faire justice à ce peuple que j'aime tant ? Et il fait preuve d'une grande humilité. On a vraiment affaire à un populiste. D'accord ? Si vous suivez un petit peu les élections françaises, je ne prononcerai pas de nom, bien entendu, mais vraiment un populiste, quelqu'un qui aime séduire le peuple, qui prend sa défense. Et nous le voyons ainsi, lorsqu'une personne, il a ainsi écouté, une personne l'a comprise, en tout cas semble-t-il, l'a reconnue dans son bon droit, lorsque cette personne, étonnée, surprise, enchantée d'être ainsi accueillie, reçue, écoutée et comprise, veut se prosterner devant lui, devant le prince, eh bien Absalom la relève avec humilité, montrant qu'il est un homme, comme cette personne, un simple être humain, qu'il est finalement au même niveau qu'elle. Et enfin, verset 5, nous voyons qu'il joint le geste à la parole. En bon manipulateur, et je dis bien en bon manipulateur qu'il est, Absalom sait combien le toucher physique, le geste d'affection, est important lorsqu'il s'agit d'obtenir de quelqu'un son aide, son approbation. Et c'est ainsi qu'on le voit tendre la main, saisir, embrasser ce qu'il vient d'écouter et de défendre. Et en agissant ainsi, chers frères et sœurs, Absalom consolide et scelle profondément le lien affectif, le lien émotionnel qu'il vient de tisser. Par ce geste affectueux, il est en train de montrer qu'on est de la même famille. Il est devenu un proche de cet Israélite, de ces Israélites. Voilà donc le long et efficace chemin de séduction accompli par Absalom durant des années. Temps, présence, prestance, flatterie, écoute, empathie, défense, humilité, geste d'affection, mais aussi calomnie. Et en effectuant ce long travail de sape pour David, Absalom a créé avec le peuple ce qui est vraiment important, un profond rapport de confiance, même s'il n'en est pas digne. On le sait très bien, on connaît le reste de l'histoire. Mais il a créé ce rapport, profond rapport de confiance. Donc voilà la première des choses, il a séduit. Ensuite, je vous le disais, il a quadrillé. Il a quadrillé parce que dans sa stratégie de conquête du pouvoir, il a trouvé important, et nous le découvrons au verset 10, de mettre en place ces hommes. Et certainement pas seulement au moment où il a décidé de se faire couronner. Mais il est fort probable qu'il a mis en place depuis des années déjà des hommes dans toutes les provinces d'Israël, dans toutes les tribus d'Israël, des hommes dont la tâche consiste à promouvoir sa légitimité, son autorité. Des hommes qui lui ont rapporté certainement ce qui se passait au fin fond d'Israël. Des hommes qui, au moment voulu, et nous le voyons au verset 10, eh bien, déclareront officiellement, solennellement, en sonnant du cor de la trompette, que Absalom est légitimement couronné roi. Et enfin, après avoir séduit, après avoir quadrillé, Absalom a eu la sagesse et l'intelligence de s'entourer efficacement. Puisque nous découvrons au verset 12, qu'il a dévoyé Achitophel, quelle que soit la prononciation de son nom, il a dévoyé cet homme en s'attachant ses précieux services. Et Achitophel était un des meilleurs conseillers de David. Voici ce que nous apprenons à son propos un peu plus loin. Les conseils donnés en ce temps-là par Ahitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous ses conseils, soit pour David, soit pour Absalom. Et la crainte de David est forte lorsqu'il apprend qu'Ahitophel l'a trahi, c'est un véritable Judas, pour servir Absalom. Et il a une telle crainte qu'il prie ceci, à genoux, sur le mont des Oliviers. « Ô Éternel, fais que les conseils d'Ahitophel soient dénués de sens. » Tellement il connaît la ruse, l'intelligence, l'habileté, la puissance de cet homme. Et de fait, très certainement, que appuyé du crédit de cet homme, de ce conseiller, eh bien la conjuration qui est menée par Absalom, eh bien va rapidement faire des progrès. Remarquons enfin, également, j'aurai encore deux remarques à faire par rapport à la séduction, au travail de sape d'Absalom. Remarquons que le fils de David a eu l'intelligence, terrible bien sûr, mais l'intelligence de faire venir à lui 200 hommes de Jérusalem. Il les invite. Et un politicien français, dans les années 60, a fait la même chose lors d'un congrès. Le congrès d'Épinay. Je vous laisserai regarder qui est cet homme politique, si vous êtes intéressé. Il semblerait que pour créer son propre parti politique, il a été président, j'en dirai pas plus, il a fait venir un grand nombre de personnes qu'il a invitées pour créer du monde, pour qu'il y ait une grande assemblée autour de lui lors de la création de son parti. Eh bien, il en fait de même, Absalom. Ou Absalom, avant lui, a fait la même chose. Il invite 200 hommes à venir le jour de son couronnement, ceux-ci viennent, ne sachant exactement ce qui va se passer. Ils viennent à lui, il se fait déclarer roi, et il donne ainsi l'impression à tout Israël que l'élite de Jérusalem est avec lui. Alors que ceux-ci sont présents lors de ce couronnement à leur corps défendant, ils croyaient simplement répondre à une simple invitation. Et enfin, pour terminer, remarquez que Absalom va demander à David l'autorisation de partir à Hébron, qui sera la ville du couronnement, de son couronnement. Et s'il agit ainsi, chers frères et sœurs, c'est qu'il y a une raison. Le choix d'Hébron comme ville du couronnement est important parce qu'il y a un symbole en Israël autour d'Hébron. Hébron est la ville dans laquelle David a été oint roi deux fois. Une première fois sur Juda, une deuxième fois sur Israël. Et il fait donc appel à toute cette symbolique de la ville d'Hébron et du couronnement de son père, du double couronnement. Et il est en train de marquer en quelque sorte une légitimation de la transmission donc héréditaire de la monarchie. Alors voilà, nous venons de voir la mise en place du plan machiavélique d'Absalom pour conquérir le trône. Séduction à Jérusalem, quadrillage de tout le pays, invitation piège à 200 grands de Jérusalem et enfin le choix symbolique de la ville d'Hébron. Que pouvons-nous dire par rapport à cela? Eh bien, nous pouvons dire ceci, c'est que dans cette gigantesque manœuvre de séduction et d'usurpation, Absalom n'a fait que répéter ce que fit avant lui son inspirateur et son maître. Il n'a fait que répéter ce que fit avant lui son maître. Et son maître qui est-ce? Le diable, Satan. Parce que nous découvrons en Genèse 3 qu'afin de détourner l'humanité de Dieu, eh bien Satan a lui aussi mis au point une terrible mais efficace manœuvre de séduction d'Adam et Ève, et d'Ève en particulier. Et c'est ainsi, et vous pourrez reprendre le texte de Genèse 3, que le diable séduisit la femme au moyen de la flatterie. Vous serez des dieux au moyen de la calomnie, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et il implique ainsi que Dieu ne veut surtout pas qu'ils le sachent, Adam et Ève, et qu'ils en mangent pour surtout qu'ils ne soient pas au même niveau que lui. Séduction, calomnie, mensonge. Vous ne mourrez pas. Ce que vous dit Dieu est mensonger. Et en agissant ainsi, il fait comme Absalom le fit en suivant donc son exemple, il se donne finalement vis-à-vis de l'humanité comme étant un bienfaiteur. Il est en train de dire à Adam et Ève, mais écoutez, suivez-moi, écoutez-moi, faites ce que je vous dis, vous voyez bien que vous avez affaire à un menteur, à quelqu'un qui vous exploite. Et il invite donc Adam et Ève à se confier en lui. Chers frères et sœurs, Le prince de ce monde est toujours à l'œuvre. Il le fut en Genèse 3, il le fut par le biais d'Absalom en 2 Samuel 15, et il l'est encore aujourd'hui, puisqu'il n'a d'autre objectif et d'autre but que d'entraîner avec lui toute l'humanité dans sa chute. Et pour ce faire, à l'instar d'Absalom, dont nous venons de voir le travail de séduction, il séduit, il flatte l'humanité, le diable continue de séduire, de flatter. Il quadrille le monde dans tous les domaines, politique, économique, social, ecclésial, familial aussi. Et le diable a à sa disposition des hommes rusés, habiles, manipulateurs, assoiffés de pouvoir, des Absalom, des Ahitophel. Voilà la réalité du monde dans lequel nous vivons. Eh bien, chers frères et sœurs, que Dieu nous accorde à propos des œuvres du diable et de ses sbires, le discernement des esprits. Que Dieu nous accorde aujourd'hui, parce que nous avons à vivre de telles manipulations, Genèse 3, 2 Samuel 15, le discernement des esprits, afin que nous soyons capables donc de discerner ou de reconnaître le vrai du faux, dans tous les domaines, dans tous les domaines, dans le domaine de la politique, nous avons à voter, économique, social, ecclésial, familial, professionnel, afin que nous soyons capables de reconnaître l'attitude humble et bienveillante en vue du service de Dieu et du bien commun, de la fausse empathie, la fausse humilité de certains dans le but de détenir les rênes du pouvoir et d'assouvir ainsi cet inextinguible désir ou ambition personnelle. En Jésus-Christ, chers amis, nous avons un modèle, ou le modèle de la véritable autorité. La véritable autorité, selon Dieu, ne cherche pas la gloire des hommes, de la part des hommes, mais le service. Et à ce propos, souvenez-vous de cet épisode. Après une longue discussion au cours de laquelle les disciples avaient cherché à savoir qui parmi eux était le plus grand, le Seigneur, avant le repas qu'ils devaient prendre ensemble, mit le comble à leur amour pour eux, comment ? En s'abaissant. En s'abaissant comment ? En s'abaissant à la tâche la plus humble de l'époque, c'est-à-dire celle du plus petit des esclaves qui consistait à laver les pieds de ceux qui rentraient dans la maison pour manger. Et après leur avoir ainsi lavé les pieds, après les avoir entendus dire « Mais non, c'est moi, Pierre !» Je suis bouillant, etc. Non, moi, Jean, je suis plus près du Seigneur. Non. Après les avoir entendus ainsi lutter les uns avec les autres, il leur lava les pieds et leur dit ceci. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Voilà le véritable service, chers frères et sœurs. Alors après d'avoir dit combien nous avons besoin et nous devons supplier Dieu d'avoir du discernement et travailler à ce discernement, réfléchir à la vie que nous menons dans ce monde et la vie qui est la nôtre, selon les Écritures, et c'est dans ce sens aussi que je vous invite aux conférences d'éthique, elles vont dans ce sens-là. Eh bien, à propos du service, mes amis, permettez-moi cette question. Est-ce que vous désirez diriger ? Est-ce que vous désirez conduire les autres ? Si tel est le cas, si vous désirez servir Dieu, alors ne cherchez pas à séduire. Ne cherchez pas à conquérir les cœurs par la flatterie comme le fit Absalom, par la séduction, par une pseudo-humilité ou la calomnie. Mais souvenez-vous, et souvenons-nous plutôt de l'exemple de notre Seigneur, qui se mit à genoux pour servir ses disciples. Il est écrit « Ne faites rien par rivalité ». C'est le texte qui précède le texte de Philippiens 2 que nous avons lu tout à l'heure au chapitre 5. « Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres comme supérieurs à vous-même. » Un peuple envoûté, c'est le deuxième point, ce sont les versets 6 et 12. Qu'est-ce que nous découvrons, dans ces deux versets 6 et 12, nous découvrons que le stratagème d'Absalom a fonctionné. Il a gagné l'amour du peuple. Nous lisons en effet au verset 12, la conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux avec Absalom. Alors, la question est la suivante. Comment se fait-il que ce peuple, qui aimait pourtant David, se laissa ainsi entraîner par Absalom? Comment est-ce que cela a pu se faire? Eh bien, c'est très simple. Si le peuple s'est laissé ainsi entraîner, séduire par Absalom, c'est parce qu'il a trouvé chez Absalom ce qu'il voulait, ce qu'il désirait. Il a trouvé chez Absalom quelqu'un qui lui disait ce qu'il avait envie d'entendre. Il a trouvé chez Absalom quelqu'un qui savait le plaindre, quelqu'un qui prenait du temps avec lui pour le flatter, pour lui dire des mots doux, pour le séduire. Quelqu'un qui lui faisait croire qu'il allait le protéger, qu'il allait prendre soin de lui. Quelqu'un qui lui promettait le bonheur et la richesse à moindre prix. Quelqu'un qui savait le prendre dans ses bras. Quelqu'un, finalement, qui le faisait rêver de lendemain enchanteur. Et puis, ce peuple s'est également, nous l'avons vu, laissé séduire par la beauté, par la prestance, par la facilité d'expression, par la force de conviction d'Absalom. Voilà comment il s'est laissé avoir. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est laissé ainsi séduire? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit d'un peuple éloigné de Dieu. Ce peuple d'Israël est, comme souvent dans l'histoire du peuple d'Israël, loin de Dieu. Et c'est un peuple qui est si loin de Dieu qu'il n'a finalement d'autre souci que d'entendre des choses agréables. Et dans ce sens, il ressemble à Adam et Ève, pour revenir à Genèse 3. Lorsqu'ils entendirent de la part du serpent dire qu'ils pouvaient devenir comme des dieux et se libérer de la tutelle de Dieu, de la tutelle divine, alors ils secouèrent le joug divin, croyant devenir libres, alors qu'ils s'enfermaient au contraire sous le pire des tyrans, le péché, sous la tutelle du pire des maîtres, c'est-à-dire le diable. Et mes amis, cette réalité est celle de l'humanité d'aujourd'hui. Notre monde n'a pas changé. Nous avons encore envie, et le peuple, nos contemporains, a toujours envie d'entendre des gens qui lui disent ce qu'il a envie d'entendre, des gens qui le caressent dans le sens du poil, qui lui disent des mots doux, qui le séduisent. Et d'ailleurs, Paul a écrit ceci à Timothée. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leurs propres désirs, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà l'homme sans Dieu. Voilà le monde sans Dieu que nous connaissons, au sein duquel nous vivons. Je le répète, il veut être flatté, il veut être victimisé, il veut être écouté, il veut être caressé dans le sens du poil. Il veut des Absalom dans tous les domaines, politique, économique, professionnel, social, etc. Surtout, l'homme d'aujourd'hui ne veut pas entendre parler dans sa vie de tous les jours de responsabilité, de travail, de devoir, de courage, de justice, de droiture, de respect du bien commun. D'un point de vue spirituel, il ne veut surtout pas entendre parler de son péché, de sa perdition, de la justice de Dieu, de la nécessité de se repentir et de se confier en Jésus-Christ pour son salut. Surtout pas. Il veut être assisté, qu'on prenne soin de lui, comme un gros bébé joufflu et rose. Voilà pourquoi nos contemporains ne sont pas prêts aujourd'hui à suivre Jésus-Christ, qu'ils méprisent, mais plutôt à chercher, et dans tous les domaines, à l'instar de ce peuple d'Israël qui se laisse ainsi emporter, des chefs pleins de prestance, beaux parleurs, pleins d'esprit et d'à-propos, qui les conduisent à la perdition, et ils ont beau voter année après année, ou quinquennat, septennat, tout ce que vous voulez, quels que soient les pays. Pour ces gens-là, ils ont beau être abusés, ils continuent de le faire. Voilà dans ce sens ce que Paul a écrit aux Corinthiens. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Voilà ce que le monde ne veut pas. Mais heureusement, un tel comportement n'est pas inéluctable. Et j'en viens à mon troisième point. Un reste fidèle, ce sont les versets 13 à 37. des émissaires arrivent à Jérusalem et ils annoncent à David qu'Absalom a été couronné roi. David connaît très bien son fils, il sait très bien ce qu'il a fait à Amnon, il connaît sa dureté et son impétuosité. Alors il n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour prendre la décision qui s'impose à lui. Il faut partir de Jérusalem. Il faut d'autant plus partir de Jérusalem que c'est dans cette ville que le coup d'État a été fomenté. Et donc il y a beaucoup de partisans d'Absalom dans la ville. Alors David part avec une grande partie de sa maison. Il va descendre dans la vallée du Cédron, il va la traverser, puis il va monter sur la montagne des Oliviers, juste à côté de Jérusalem, la tête couverte, pleurant, nu-pied. Et au sommet, considérant la ville, il va s'agenouiller et prier. Et mes amis, dans ce rejet et ces souffrances qui sont celles de David, sur ce mont des Oliviers, nous pouvons dire, et nous devons dire, que dans ce chapitre 15, il préfigure ce que Jésus-Christ connaîtra plus tard, dans ses souffrances, dans son rejet, lors de sa passion. Mais, et c'est ce qui est intéressant, ce qui est remarquable lors de cet événement particulièrement dramatique de David, c'est de constater, écoutez-moi bien, que David n'est pas seul. David ne part pas tout seul, il part pas seul avec son petit baluchon, accompagné peut-être d'une ou deux personnes et de son mulet ou de son âne. Il n'est pas seul. Plusieurs s'attachent à lui dans ce départ. Tout le peuple n'a pas été séduit. Et c'est ainsi que nous sommes étonnés de constater que des Kérétiens, des Pélétiens, des Gathiens, quelques-uns de sa cour également, le suivent en premier lieu. Qui sont ces hommes? Il s'agit de Philistins. Ces hommes, ces Kérétiens, Pélétiens et Gathiens, sont des Philistins, peut-être d'origine crétoise, qui l'ont accompagné de longue date dans ses combats. Et c'est eux qui viennent en premier lieu avec lui. Et le témoignage de leur chef, qui est Philistin, je le rappelle encore une fois, est éloquent en termes de foi, en termes de fidélité. Lorsque David lui dit « Mais écoute, tu ne me dois rien, je ne vais pas t'entraîner avec moi dans ma chute. » Alors que David est dépouillé de toute richesse, alors que David est dépouillé de toute gloire. Et je le répète, que ce Gathien, Ittai, pourrait très bien partir, il ne doit plus rien à David. Cet homme déclare ceci, « L'Éternel est vivant, et mon Seigneur le roi est vivant. À l'endroit où sera mon Seigneur le roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. » Mes amis, retenez ce témoignage de foi extraordinaire et cette fidélité. Est-ce qu'il ne vous rappelle pas, ou est-ce qu'il ne nous rappelle pas, une autre confession de foi d'une femme étrangère, Ruth, qui au moment où Naomi quitte le pays où elle était, elle a perdu ses fils, elle a perdu son mari. Son autre belle-fille s'en va, Ruth lui dit ceci, « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci et qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. » Confession de foi extraordinaire de cette étrangère, Moabite, Ruth, de la même façon qu'Ittai. Mes amis, que ce soit Ittai ou que ce soit Ruth, il faut une foi solide pour partir ainsi, sans aucune certitude de retour, quant à l'avenir, vers une destination inconnue, peut-être même la mort au détour du chemin, parce que c'est ce qu'ils pouvaient tout à fait imaginer. Et ce sont des étrangers, ce ne sont pas des Juifs. Ce ne sont pas des Israélites. À la suite d'Ittai, des Gathiens, des Pélétiens et des Kérétiens, qui suit David? Un reste fidèle. Ce sont des Israélites, plein de foi, qui rejoignent David. Il s'agit d'Abiatar, de Tsadok et de tous les Lévites. Et ils viennent avec l'Arche de l'Alliance. Malgré le travail de séduction d'Absalom, ces hommes ne sont pas tombés dans le piège de l'apostasie. Ils sont demeurés fidèles. Et nous découvrons enfin au verset 32, Hushaï, l'Archien, un ami de David, qui lui aussi le rejoint, la tunique déchirée et la tête recouverte de terre en signe de deuil. Lui aussi demeure fidèle. Nous découvrons, chers amis, ici, je le répète, que la séduction n'est pas inéluctable. Que l'apostasie n'est pas inéluctable, puisque des hommes, des femmes, tant d'origines étrangères qu'israélites, n'ont pas plié le genou, mais sont demeurés fidèles à l'Éternel et à son oint. Ils sont demeurés fidèles. Dieu leur a fait cette grâce, leur a donné la foi et la force de rester fidèles. Eh bien, il en est de même aujourd'hui. Chers frères et sœurs, il en est de même aujourd'hui. Même si la cause de notre Dieu n'est pas majoritaire aujourd'hui, en Occident et dans notre pays en particulier, comme la cause de David n'était pas majoritaire au moment de sa fuite. Et qu'il faut aujourd'hui une foi solide pour suivre Dieu, puisque tout semble aller contre lui dans ce monde. Eh bien, notre Dieu se garde toutefois un reste fidèle, comme à l'époque d'Élie, où Élie croyait être seul, et que l'Éternel lui dit dans la caverne qu'il en a gardé 7000 fidèles pour lui. Notre Dieu se garde un reste fidèle qui ne plie pas le genou devant le mensonge, l'iniquité, l'apostasie, la séduction, la flatterie. Et ce reste fidèle, c'est son Église. Constituée, comme ici, de juifs et de païens, unis ensemble dans la même foi au Christ Jésus. C'est son Église. Et il est intéressant de noter ceci dans ce chapitre. David, regardez bien, demande à Tsador et à Abiatar, aux Lévites, à partir du verset 25, il leur demande de continuer de servir Dieu à Jérusalem, de prendre l'arche, de la ramener à Jérusalem et de continuer de rendre le culte à l'Éternel. Et il dit à Hushaï, tu me seras à charge, retourne à Jérusalem et sois pour moi, si ce n'est un espion, du moins quelqu'un qui contrera les conseils d'Aïtophel. Mes amis, cette décision de la part de David est une magnifique illustration du rôle de l'Église aujourd'hui, c'est-à-dire de notre rôle aujourd'hui au sein d'un monde, c'est vrai, qui est un monde apostat. De la même façon que David demande à Abiatar de rester de servir l'Éternel à Jérusalem, chers frères et sœurs, de la même façon, l'Église est appelée par Dieu à continuer de l'adorer au sein de ce monde apostat, en lui rendant un culte selon sa volonté. Au sein de ce monde incrédule, l'Église n'est pas appelée à se mettre dans un coin et hors de ce monde, hors du contact avec ce monde. Nous sommes ici et nous devons rendre un culte à l'Éternel, notre Dieu. De la même manière que David demande à Hushaï de retourner à Jérusalem et de faire échec au conseil d'Aïtophel, qui est un véritable Judas, de la même façon, l'Église est appelée par Dieu aujourd'hui, par une annonce vraie et virile de l'Évangile, à faire échec aux mensonges distillés de diverses façons dans ce monde contre Dieu. Nous avons donc une position offensive, une réalité de présence, mais ce n'est pas simplement une présence, c'est aussi une présence active, vraie. Nous avons à rendre témoignage, parce que nous sommes, personnellement, en tant qu'Église et par le message qui est le nôtre. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle, dans la prière sacerdotale, en Jean 17, Christ prie ainsi le Père. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Chers frères et sœurs, je conclue ainsi. Nous sommes dans un monde qui ne veut de façon évidente pas de Dieu, qui préfère, comme nous l'avons vu dans ce chapitre 15 de 2 Samuel, se laisser séduire par le chant séducteur de certains Absalom. Que Dieu nous accorde dans un premier temps la grâce de discerner les Absalom, le mensonge, la séduction, où qu'elle se trouve, afin de ne pas nous laisser séduire, emporter et de ne pas perdre le prix de notre salut en Jésus-Christ. Mais ensuite, à l'instar d'Ittaï, le Harkien, sachons dire, l'Éternel est vivant. Et mon Seigneur le Roi est vivant, il le disait à David. À l'endroit où sera mon Seigneur le Roi, soit pour mourir, soit pour vivre, là aussi sera ton serviteur. Que notre confession de foi et notre consécration soient à l'image de cet homme. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vivant. Il règne dans le ciel. Il est le chef de son Église. Et tant qu'il nous appelle ici à être ses témoins, à proclamer sa parole, à lui rendre un culte, vivant ou jusqu'à la mort, que le Seigneur nous accorde, comme cet homme, comme ceux qui l'ont suivi, d'être trouvés fidèles. et que dans ce sens, donc, l'Église continue de rendre un culte à Dieu. Que le son clair de la trompette du témoignage soit entendu, et soit entendu très concrètement ici, à Lausanne, dans le canton de Vaud, dans ce pays qu'est la Suisse. Amen. Éternel notre Dieu, qu'à l'image d'Ittaï, de Tsadok, Abiatar, les Lévites, Ushai, tu nous accordes la grâce d'un renouvellement de notre foi et de notre consécration. Telle est notre prière, ô notre Dieu, pour aujourd'hui et pour cette semaine. Éternel, nous soyons trouvés fidèles et entiers pour toi, dans le service qui est le nôtre, quelque faible que nous soyons. Nous te demandons tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Courbons-nous dans la prière. Éternel, après ce repas de communion, nous nous confions encore entre tes mains au début de cette semaine, comme il t'a déjà été demandé, te demandant tout le secours dont nous avons besoin, Éternel, afin de demeurer ferme. Seigneur, joyeux dans la foi qui est la nôtre, dans notre communion avec toi et fidèle, Seigneur, dans toutes nos tâches. Nous amenons également, nous présentons à ton trône de grâce ceux des nôtres qui sont dans la souffrance. Nous pensons tout particulièrement à Connie et Daniel, et à leur famille. Nous te demandons, Éternel, de venir chercher notre sœur, et de l'accueillir, Éternel, dans ton royaume glorieux. Nous te prions pour Madame Dubois, qui est également souffrante, te demandant que tu sois avec elle aussi, que tu lui permettes une récupération pleine et entière, Éternelle. Nous te remettons tous ceux des nôtres qui souffrent pour diverses raisons, te demandant que tu les soutiennes, que tu leur accordes vraiment une réelle conscience de ta présence et une paix comme, Éternelle, le monde ne connaît pas et ne peut donner. Nous te prions, Seigneur, pour notre canton, pour notre commune et pour notre pays, te demandant que tu soutiennes et bénisses, Seigneur, toutes les autorités, en particulier ceux, Seigneur, qui sont appelés en autorité et qui te connaissent. Nous te prions pour ce monde et pour les perdus, te demandant et t'implorant afin qu'il y ait un grand nombre d'âmes sauvées. Que tu bénisses, Éternel, et donnes du fruit à tout ce qui se fait en termes d'annonce de l'Évangile. Tout ce qui s'est fait. Et dans ce sens, nous te demandons vraiment que nous puissions être trouvés fidèles, que notre Église éternelle porte du fruit. Seigneur, que tu nous accordes aussi de pouvoir voir des âmes se tourner vers toi, Seigneur, et croître et grandir dans la foi, dans le service, dans la consécration à toi. Toutes ces choses, nous te les demandons, Éternel, nous attendons à toi et te remercions par avance pour les réponses que tu nous accorderas, Seigneur, dans ta bonté et pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.